Alors, le psaume 115, les versets 1 à 3. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 11, 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Une troisième lecture dans l'épître de Jude. Les versets 24 et 25. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
La réforme sans la parole de Dieu, c'est comme la lecture de la Bible sans l'Esprit de Dieu. On va dans tous les sens. Et surtout dans le sens de tout centrer sur l'homme, au lieu de tout centrer sur Dieu. Et nous comptons donc ce matin sur l'Esprit de Dieu, à l'étude de sa parole, pour nous centrer sur Dieu. Dans cette année qui marque les 500 ans de la Réforme, nous sommes heureux de faire référence à ce temps historique qui remet en valeur les fondements du salut. Et nous arrivons actuellement à notre cinquième culte, nous parlons des éléments de fondement de la réforme. Le salut, c'est le centre, en fait, de cinq vérités qui ont été remises en valeur à ce moment-là de l'histoire. Alors la première, enfin, c'est pas forcément l'ordre logique, mais c'est l'ordre que nous avons pris, c'est la sola scriptura, qui indique, en fait, la seule référence fiable, le seul fondement, la seule autorité en matière d'explication du salut, c'est l'Écriture et la Bible est en fait l'autorité ultime en tout. Sola scriptura. Ensuite, sola fide. C'est des souvenirs maintenant qui reviennent en entendant ces termes. Sola fide, c'est le moyen. Si sola scriptura, c'était la référence, sola fide, c'est le moyen de saisir le salut. C'est par la foi seule que nous saisissons le salut. Les œuvres n'y contribuent pas. Elles en découlent. La justification par la foi seule, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, qui est dans Romains aussi, devant vous là. Eh bien, certains disent que c'était la doctrine phare de la réforme, la justification par la foi seule. Nous avons encore le sola gratia, qui indique maintenant le moyen utilisé par Dieu pour accorder le salut. Si la foi était le moyen pour saisir le salut, la grâce est le moyen pour accorder le salut. C'est par la grâce seule, nous n'avons aucun mérite. Ensuite, le solus Christus indique l'auteur et le seul médiateur pour le salut. Jésus-Christ aussi devenu homme. Et la soli Deo Gloria indique le but, la raison du salut. C'est pour la gloire de Dieu. Tout est centré sur Dieu. Et je le répéterai encore une fois, si quelqu'un cherche un centre de l'univers, ce n'est ni la terre, ni le soleil, c'est Dieu. Lors de la réforme du XVIe siècle, les erreurs dénoncées étaient principalement celles du catholicisme romain. Alors, est-ce que cela a changé aujourd'hui? Eh bien, sur la base des solas, nous pouvons démontrer que la distance qui sépare le catholicisme romain de la foi biblique basée sur l'Évangile n'est pas plus réduite qu'au temps de la réforme. Après la réforme, l'Église catholique romaine a mis par écrit ce qu'elle enseignait au Concile de Trente. Et ces écrits font toujours autorité. jusqu'en 92, d'ailleurs 1992, hein, jusqu'en 1992, il n'y a pas eu de parution, en fait, d'écrit officiel qui systématisait la foi catholique romaine. Mais en 92, il y a eu le catéchisme de l'Église catholique qui, en fait, ne contredit en rien du tout le Concile de Trente. Et face au sola, eh bien, nous allons quand même un petit peu voir face au sola, eh bien, l'Écriture seule, l'Église catholique romaine ajoute à l'Écriture l'autorité de la tradition et l'autorité de l'enseignement du magistère. Ce n'est donc pas sola scriptura. Face au sola fide, elle ajoute la nécessité de bonnes actions pour obtenir le salut. Ce n'est pas sola fide. Face au sola gratia, elle ajoute la nécessité de bénéficier de bénéfices obtenus par l'office sacramental de l'Église. Ce n'est pas sola gratia. Face au solus Christus, elle ajoute l'Église comme extension de l'incarnation et Marie comme co-rédemptrice. Ce n'est pas solus Christus. Et face au soli Deo Gloria, elle ajoute la vénération d'une foule d'autres figures qui détournent le culte à rendre à Dieu uniquement. Ce n'est pas soli Deo Gloria. Et nous ne venons de citer que quelques éléments. Hein. Aucun changement de fond n'a eu lieu depuis la réforme. Cette Église s'est plutôt, en fait, éloignée en promulguant, je vous cite, trois dogmes supplémentaires qui s'éloignent de la parole. En 1854, donc ça c'est après la réforme, hein, le dogme de l'Immaculée Conception. En 1870, l'infaillibilité du pape. Et en 1950, l'Assomption de Marie. Donc même si le langage et la forme s'adaptent à la situation actuelle, le fond des croyants de l'Église catholique romaine ne se rapproche pas des Écritures. Et donc ça, même si le langage et la forme s'adaptent, c'est vrai, à la situation actuelle, le fond des croyances de l'Église catholique romaine ne se rapproche pas des Écritures. Et un ami théologien qui connaît bien le sujet me disait encore dernièrement que l'Église catholique romaine utilise actuellement, particulièrement souvent, le langage évangélique. Le langage évangélique, en parlant souvent, par exemple, de la grâce, mais en n'y mettant pas la même signification. Mais comme je l'ai déjà dit, au début, enfin, à la deuxième prédication sur ces solas, je n'ai pas choisi ces prédications des solas pour prendre beaucoup de temps pour expliquer les erreurs. Je veux plutôt d'abord poser les fondements de la vérité révélée dans la parole, et j'en ferai de même aujourd'hui. D'ailleurs, nous pourrions malheureusement grandement élargir les fausses doctrines à dénoncer avec ces solas dans les milieux protestants et évangéliques. Mais avant de détruire une maison de système de croyance erronée, il faut d'abord construire une autre maison à côté sur les bases des croyances bibliques. Et ensuite, lorsque nous déménageons dans cette maison construite de bases bibliques, eh bien, nous pourrons ensuite nous débarrasser de l'ancienne. Parce que si nous mettons à la rue celui en détruisant sa maison de système théologique sans avoir une autre maison, il est à la rue. Il y a besoin de d'abord construire un autre système théologique. Et nous allons donc continuer aujourd'hui à plutôt construire la nouvelle maison. Et nous le ferons en réfléchissant ensemble à ce dernier sujet des solas, qui en est aussi le premier et qui en est aussi le centre, en fait. Il est partout. Hein? Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et nous allons passer par trois étapes ce matin. La première, nous allons chercher à rencontrer le Dieu de gloire. Ensuite, nous réfléchirons au but de l'homme en lien avec ce sujet. Et nous prendrons le temps d'appliquer Soli Deo Gloria, ou SDG, si vous voulez abrévier, dans tous les domaines. C'est le menu du jour. Ça va? Vous êtes encore là? C'est un peu plus chaud actuellement, donc on essaiera d'être bien présent ce matin. Super. Premier point, le Dieu de gloire. Dans la Bible, Dieu se manifeste de diverses manières. Mais c'est vrai que celles qui nous marquent le plus sont celles qui sont impressionnantes. Et par exemple, au Sinaï, quand on commence à réfléchir, hein, Dieu fait trembler une montagne. La fumée avec, en fait, tout un spectacle de son et lumière, en fait, hein, qui a tellement impressionné le peuple, d'ailleurs, qui comprend la sainteté de Dieu, qu'il ne veut plus s'approcher de lui de peur de mourir. Ou encore, Ésaïe, qui a vu la gloire de Dieu dans le temple où les soubassements tremblaient, hein, qui étaient remplis de fumée et des séraphins qui criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Et d'ailleurs, Jean 12, 41 nous indique que Ésaïe a vu Jésus-Christ à ce moment-là. On pourrait encore parler d'Ézéchiel, de Daniel ou de Jean lors de leur vision apocalyptique qui ont si vu la gloire de Dieu et n'ont pas pu tenir devant lui s'ils n'avaient pas été soutenus. Même Pierre, Jacques et Jean ont vu la manifestation de la gloire de Dieu lors de la transfiguration. Jésus, tout à coup, leur est apparu lumineux comme le soleil. Et la voix de Dieu le Père, entourée d'une nuée d'ailleurs, hein, qui les entourait, eh bien, les a fait tomber face contre terre, parce qu'ils étaient saisis d'une crainte violente. Ces quelques manifestations indiquent la grandeur, la puissance, la beauté, la splendeur, l'élévation, la souveraineté, la sainteté. En fait, la gloire de Dieu. Hein, ces quelques manifestations, je redis ces termes, ça nous permet de les saisir. Hein, manifestent la grandeur, la puissance, la beauté, la splendeur, l'élévation, la souveraineté, la sainteté. En fait, la gloire de Dieu. C'est une gloire unique. Une gloire de celui qui remplit tout, qui est partout et qui sait tout. Quelqu'un disait, la gloire de Dieu, c'est sa sainteté rendue visible. C'est la manifestation d'un Dieu infini. C'est la radiation de sa sainteté, l'éclat lumineux de sa valeur infinie, la beauté et la grandeur de ses perfections infinies. C'est ça la gloire de Dieu. Il n'y a pas en fait de mots assez puissants, assez élevés, assez majestueux pour le dire. Et nous entendons donc les séraphins simplement dire, oh, simplement, quelqu'un, enfin ma femme me disait simplement, il ne faut pas que ça réduise le terme, mais saint, saint, saint est l'Éternel, que vous avez au-dessus de vos têtes d'ailleurs chaque dimanche, pour nous rappeler de la grandeur de Dieu. Celui qui est glorifié est celui qui donne la vie, qui la maintient, qui accorde l'intelligence, qui accorde la force, qui tient tout en fait en lui. Hein, Romains 11, 36, nous l'avons entendu tout à l'heure, dit « Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui soit toute la gloire. » Vous savez, ce n'est pas un super-héros, ce n'est pas quelqu'un de super-intelligent ou de super-sage, une personne hors norme. Non, c'est bien plus, c'est Dieu. Vous savez, lorsqu'un sportif accède à la première marche du podium grâce à un exploit, il a son moment de gloire mérité. Alors si nous parlons en termes sportifs, Dieu est dans l'exploit permanent et se trouve ainsi sur la première marche du podium pour tout. Son moment de gloire mérité est donc permanent. La gloire est aussi décernée au roi, à ceux qui gouvernent des empires. Mais vous savez, Dieu a le titre de monarque de l'univers. Il a la gloire et le prestige. Et personne n'est au-dessus de lui, à qui lui il devrait rendre gloire. Personne. En fait, il ne doit l'honneur à personne, c'est tous qui lui doivent honneur. Ou encore, un vaillant général ou un soldat valeureux reçoit les honneurs et la gloire de sa nation. Mais même dans ce domaine, Dieu a versé son propre sang, est-il écrit dans Actes 20, 28, pour gagner la guerre la plus violente, la plus horrible qui puisse exister, la guerre contre l'enfer, contre celui qui ne recule devant rien pour détruire. Il a vaincu la mort, il a libéré son peuple, et sa nation lui rend honneur et gloire. Regardez avec moi dans Apocalypse 5, Apocalypse 5, à partir du verset 11. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Dieu est glorieux à cause de ses perfections. Dieu est glorieux à cause de ses perfections. Nous parlons d'une gloire qui est au-delà de notre raison, de toute comparaison dans la création. On ne peut pas comparer. C'est au-dessus. Si vous connaissez quelque chose qui est juste extraordinaire, ça l'est plus. Ça l'est plus. Cette beauté, cette grandeur existe sans origine, sans correspondance, sans analogie, sans pouvoir être jugée par aucun critère. Nos critères sont beaucoup trop faibles, en fait. Toute gloire vient de lui et pointe vers lui. Et la première étape pour comprendre le reste en toute chose, c'est de saisir la gloire de Dieu. Quelle est la grandeur, la puissance, la majesté et la gloire de votre Dieu? Vous savez, notre manière de considérer Dieu change radicalement notre façon de voir les choses. Prendre quelques exemples qui sont bien sûr bien moindres, puisqu'on ne peut pas comparer à Dieu, mais on a besoin d'illustrations. Mais celui qui n'a aucune idée de l'athlétisme, ça peut être quelqu'un d'entre vous, et qui se retrouve en face de Usain Bolt, ben, il n'aura pas la même réaction que celui qui a suivi toutes ses courses et vibré à toutes ses médailles olympiques. Ou encore celui qui n'a aucune idée de la médecine et se retrouve en face de René Prêtre. Il n'aura pas la même attitude que celui dont le cœur a bénéficié de l'ouvrage de ce chirurgien cardiaque renommé. Notre attitude dépend de la connaissance que nous avons de l'autre. Alors je ne peux que nous encourager à apprendre à encore mieux connaître notre Dieu de gloire. Émerveillons-nous devant la création dans laquelle Dieu manifeste sa gloire. Que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Si vous commencez à vous y intéresser, c'est juste passionnant et vous y voyez sa gloire. Émerveillons-nous aussi devant l'œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ, où Dieu est capable d'accomplir sa justice et sa miséricorde en même temps. C'est juste glorieux. Qui aurait pu le faire? Personne à part Dieu. Toute l'œuvre et la vie de Jésus-Christ est avant tout pour glorifier Dieu. Et je terminerai ce point, qui pourrait être prolongé à l'infini, mais on s'arrêtera là, par une citation d'un article de la Confession de foi de 1689, qui reprend beaucoup de passages bibliques et le condense en une déclaration. Parlons ici donc du Dieu trinitaire, qui dit « Possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par et sur elle. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qui lui plaît. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui rien n'est contingent, donc sans importance, ou incertain. Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur créateur, pardon, et tout ce qui lui plaît d'exiger d'eux en plus. » Fin de citation. Ben justement, face à un Dieu si glorieux, quel est le but de l'homme? C'est le deuxième point, le but de l'homme. Alors, parmi vous, beaucoup connaissent la première question du catéchisme de Westminster, donc je pourrais vous la poser, et vous connaissez la réponse. La première question, donc, c'est « Quel est le but principal de la vie de l'homme ?» Et la taxe, ça sort dans nos têtes, alors j'espère après dans la vie, comme on le verra. « Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver son plaisir en lui. » Alors certains la modifient un peu en disant le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu en trouvant son plaisir en lui. Les deux vont très bien. Et nous avons entendu tout à l'heure 1 Corinthiens 10, 31, un passage que vous connaissez aussi pour ceux qui ont suivi les artisans de paix. Hein. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dieu demande de lui rendre gloire. Et là, certains disent que cette demande est une demande égoïste. Vous avez déjà entendu ça? Alors comme ça, si vous l'entendez, on va l'expliquer. Vous pourrez répondre. Cette remarque manifeste un total manque de connaissance de qui est Dieu et de ce qu'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est être centré sur soi au lieu d'être centré sur Dieu, qui est à l'origine de notre existence et qui en est la raison. Hein? Donc l'égoïsme, c'est être centré sur soi au lieu d'être centré sur Dieu. Après, c'est clair, en étant centré sur Dieu, ben, on regardera aussi autour de nous, évidemment. Donc Dieu qui est à l'origine de notre existence et qui en est la raison. Si pour ne pas être égoïste, nous sommes appelés à être centrés sur Dieu, hein, ne pas être égoïste, c'est être centré sur Dieu, pourquoi Dieu, qui est centré sur l'origine de l'univers, la sagesse suprême, le bien total, la sainteté parfaite, sur Dieu lui-même, pourquoi serait-il traité d'égoïste? Et si Dieu était centré sur autre chose que lui-même, il ne serait plus Dieu. Si Dieu n'était plus centré sur lui-même, il ne serait plus Dieu. Son Dieu serait sur quoi il serait centré. Mais Dieu n'a pas de Dieu. Et soyons-en certains, nous ne sommes pas les dieux de Dieu. Nous avons lu dans Romains, tout est de lui, par lui et pour lui. Il est le centre, l'origine de toute vie, de tout don, de toute capacité, de toute force. Je sais que certains ici connaissent ce texte de 1 Corinthiens 4:7. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Oui, nous travaillons à chercher à progresser. Nous exerçons les dons reçus, mais nous les avons reçus. D'ailleurs, les forces pour les faire progresser, nous les avons également reçues. Voilà pourquoi le cri du psalmiste du psaume 115 devrait être souvent à notre bouche. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Parce que vous savez, si on ne donne pas gloire à Dieu et qu'on la donne à nous, les nations, qu'est-ce qu'ils voient? Nous! Puis ils disent, où est donc leur Dieu? Non! Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Hein? Pourquoi les nations diraient-elles où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dieu est glorifié lorsque nous trouvons toute notre satisfaction, tout notre plaisir, tout notre espoir en lui. C'est ça. Parce que chaque fois, ça ramène vers lui. Pourquoi suis-je heureux? Parce que Dieu, etc. Nous voulons donc que la gloire de Dieu ne soit entachée par rien, qu'aucune ombre ne lui soit faite, que rien ne lui soit volé. C'est pourquoi nous voulons vivre soli, deo, gloria dans tous les domaines de notre vie. Hein? Je dirais SDG, ça diminue un peu le, parce que je le prendrai régulièrement ici dans nos derniers points. Soli, deo, gloria ou SDG dans tous les domaines. Alors premièrement, dans le domaine du salut, ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu, c'est lui qui m'a cherché. Alors si je veux absolument rester sur la position que c'est moi qui ai cherché Dieu, eh bien en fait je fais de l'ombre à sa gloire. Vous savez quel est le premier message du salut dans la Bible? Premier message d'évangélisation, on l'a entendu jeudi d'ailleurs. Adam, où es-tu? Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Il se cache plutôt. Il ne cherche pas à rencontrer Dieu depuis la chute. Et le texte d'Éphésiens, un texte d'Éphésiens que je vais lire, est évident quant à la prééminence de Dieu dans le salut, à son choix en dehors de toute considération de personne. Écoutez Éphésiens 1, vous pouvez regarder dans vos Bibles aussi, versets 4 à 6. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Et écoutez bien la raison qui est donnée ici. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour sa gloire. parce qu'il voulait se glorifier. Ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu. Et s'il n'y a rien en moi qui a pu faire qu'il me choisisse, alors, soli Deo Gloria. Hein, ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu. Et s'il n'y a rien en moi qui a pu faire qu'il me choisisse, alors SDG, si vous voulez, soli Deo Gloria. Jésus a tout accompli pour que je sois sauvé. Premièrement, il a totalement vécu la vie parfaite que je devais vivre pour être accepté par Dieu. Il l'a vécu, cette vie parfaite. Et deuxièmement, il a totalement payé pour la dette de mes péchés. Mon salut est donc de recevoir sa vie parfaite et son acquittement de dette. Si ce n'est pas moi qui agis pour être sauvé et être saint, mais que je le saisis simplement par la foi qu'il me donne, alors, soli Deo Gloria. C'est à lui toute la gloire. Si je peux dire aujourd'hui je suis saint, c'est parce que je reçois la sainteté de Christ. Et évidemment, je vais être actif pour mettre ce salut en action. Je vais mettre toutes mes forces pour grandir dans la sainteté pratique, ici-bas, sur cette terre, sans attendre. À pas dire j'attends quelque chose. Je ne suis pas spectateur de ma vie, je suis acteur de ma vie. Je ne suis pas en train de regarder ma vie et dire qu'est-ce qu'il va faire Dieu là? Ok, puis après, j'y vais. Non, je suis acteur. Et là encore, je me souviens de Philippiens 2, 12 et 13. Hein. Mettez votre salut en action, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Soli Deo Gloria. Voyez, c'est partout, partout. Et si Dieu me donne le vouloir et le faire, alors, soli Deo Gloria. Dans l'évangélisation encore, le but premier, c'est la gloire de Dieu. Le but premier, ce n'est pas que des hommes sauvés, que des hommes soient sauvés, même si l'évangélisation est le moyen que Dieu utilise pour amener des hommes au salut, ça c'est vrai. Mais le premier but, c'est sa gloire. Ainsi, lorsque vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que les hommes vous écoutent et se tournent vers lui en un nombre impressionnant, ou que peu ou pas se tournent vers Dieu, vous avez glorifié Dieu en ayant annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Donc si vous annoncez l'évangile, et que c'est lui qui transforme les cœurs, alors, soli Deo Gloria. Allons un peu dans le sujet de l'adoration aussi. Pourquoi venez-vous à l'église? Si vous ne devez donner qu'une raison pour venir à l'église, la raison qui soutient toutes les autres. Alors, si vous vivez le soli Deo Gloria, je vous dirai, du fond de votre cœur et dans une vraie réalité, je viens à l'église pour glorifier Dieu. Je viens à l'église pour glorifier Dieu. Et si c'est ce que vous vivez, vous ne serez pas déçu si vous ne voyez pas celui ou celle que vous auriez voulu voir, ou si vous ne recevez pas ce que vous souhaitiez, ou si vous ne ressentez pas quelque chose de chaud au fond du cœur pendant le culte, parce que vous êtes venu premièrement et avant tout pour glorifier Dieu. Oui, dans sa grâce, il y a bien des choses qu'il nous donne par-dessus, évidemment. Mais on vient pour glorifier Dieu. Celui qui vient pour glorifier Dieu à l'Église ne cherche pas à glorifier qui que ce soit d'autre, ni pas une personne, ni non une personne. Celui qui vient au culte parce que c'est un tel prédicateur qui vient, est-il vraiment en train de glorifier Dieu? Oui, on peut avoir du plaisir d'écouter certaines personnes, c'est vrai. Mais si c'est ça qui nous guide, c'est pas Dieu qu'on glorifie. Soli Deo Gloria dans l'adoration, c'est aussi évacuer toutes les idoles à qui une partie de notre adoration pourrait être donnée, afin que notre cœur soit sans partage pour Dieu. C'est ça, hein? Soli Deo Gloria dans l'adoration, c'est évacuer toutes les idoles à qui une partie de notre adoration pourrait être donnée, afin que notre cœur soit sans partage pour Dieu. Hein? Vous savez ce que Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, il dit « Je suis l'Éternel, et c'est là mon nom ». Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues ou aux idoles. C'est Ésaïe 42, 8. Après avoir vu soli Deo Gloria dans le salut, dans l'adoration et dans ma vie. Si je suis célibataire, quel est le but de ma vie? Glorifier Dieu et trouver mon plaisir en lui. Et non pas glorifier ma liberté. Cela signifie qu'en tant que célibataire, j'utiliserai ma liberté pour mieux servir Dieu. Ainsi, soli Deo Gloria. En tant que célibataire, j'utiliserai ma liberté pour mieux servir Dieu. Si je suis marié, quel est le but de ma vie? Glorifier Dieu et trouver son plaisir en lui. Et non pas glorifier mon époux ou mon épouse. Cela signifie qu'en tant qu'épouse, je serai soumise à mon mari, et en tant qu'époux, j'aimerai ma femme, prêt à donner ma vie, afin que l'alliance de Christ avec son Église soit illustrée par notre couple, et ainsi nous rendions gloire à Dieu. C'est ça. Donc, en tant qu'épouse, je serai soumise à mon mari. En tant qu'époux, j'aimerai ma femme, prêt à donner ma vie, afin que l'alliance de Christ avec son Église soit illustrée par notre couple. Et ainsi, nous rendrons gloire à Dieu ensemble. Si j'ai des enfants, quel est le but de ma vie? Vous pourriez le dire maintenant, hein? Glorifier Dieu et trouver son plaisir en lui, et non pas glorifier mes enfants ou me glorifier par mes enfants. Cela signifie, en tant que parent, élever mes enfants que Dieu m'a confiés en les rendant petit à petit dépendants de lui et non de moi. En tant que parent, élever mes enfants que Dieu m'a confiés en les rendant petit à petit dépendants de lui et non de moi. Et pour les enfants, d'obéir aux parents pour démontrer l'obéissance à Dieu. Soli Deo Gloria. Vous voyez, c'est des implications tout à fait pratiques. Hein? Et si par la grâce j'ai un travail, quel est le but de ma vie? Glorifier Dieu et trouver son plaisir en lui, et non pas glorifier mon travail, mon patron, mon entreprise ou ma carrière. Cela signifie que je donnerai le meilleur de mon travail pour glorifier Dieu, évidemment, car Dieu veut l'excellence tout en restant au centre. Donc je donnerai le meilleur dans mon travail pour glorifier Dieu, parce que Dieu veut l'excellence tout en restant au centre. Et je terminerai ce point avec une partie de la déclaration de Cambridge qui dit ceci. Dieu n'existe pas pour satisfaire nos ambitions humaines, nos convoitises, notre appétit de consommation, ni même nos intérêts spirituels personnels. Nous devrions de nouveau centrer notre adoration sur Dieu lui-même, plutôt que sur la satisfaction de nos besoins personnels. Dieu reste souverain dans l'adoration, pas nous. Nos soucis devraient concerner le royaume de Dieu et pas notre propre sphère, notre popularité, notre succès. Et en conclusion, j'aimerais réfléchir, quelles sont les conséquences de Soli Deo Gloria? Quelles sont ces conséquences? Eh bien, les conséquences sont nombreuses. Mais pour nous aider à y réfléchir, je vais vous donner quelques pistes. Et ensuite, on s'arrête. Et quelques pistes, et vous pourrez chercher à continuer cette réflexion. Même par exemple, après le culte, vous pourrez vous dire, mais quelles sont les conséquences de vivre à la gloire de Dieu? Alors, quelques pistes. Une première, Soli Deo Gloria nous rend humbles. Parce que nous reconnaissons que tout vient de Dieu. Et ainsi, nous ne nous glorifions pas nous-mêmes. Cela vient de lui et nous en sommes reconnaissants. Soli Deo Gloria nous rend honnêtes. Parce que nous reconnaissons que comme tout est à Dieu, nous gérons tout ce qui lui appartient avec équité. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a confié. Donc je vais le faire avec équité. Vous savez, du temps de la réforme, à la fin de la réforme, il y avait les huguenots. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces gens-là. Et on disait être honnête comme un huguenot. Eh bien que, dans la grâce de Dieu, on puisse aussi être appelé, être honnête comme un chrétien, comme un tel et tel. C'est beau, non? Parce qu'on vit pour la gloire de Dieu. Soli Deo Gloria nous rend chaste aussi. Car nous ne voulons pas vivre pour notre propre plaisir, mais pour la gloire de Dieu. Et cela implique que nous vivions notre sexualité uniquement dans le mariage, dans le respect réciproque. Ce qui glorifiera Dieu, qui l'a voulu ainsi. Vivre pour la gloire de Dieu nous rend chaste. Après, là, on peut aller beaucoup plus loin. Dans ce sens, nous rend aussi, on a des égards pour les autres. On est patient, enfin, etc. Soli Deo Gloria nous décharge aussi de grands fardeaux. Car on ne doit plus assumer la responsabilité de faire tourner le monde. Vous imaginez le poids que beaucoup de personnes ont sur eux parce qu'ils disent « je dois faire tourner le monde ». C'est un petit peu ça, hein, dans la pratique. Peut-être pas dans la théorie, mais dans la pratique. Mais non, c'est Dieu qui tient tout cela. Et c'est d'ailleurs à lui que nous voulons rendre toute la gloire. Nous pouvons nous appuyer totalement sur ce qu'il nous demande sans avoir besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. Des fois, on veut comprendre pour faire ce que Dieu nous demande. Mais attendez, c'est vous qui voulez gérer le monde. C'est lui qui le gère. Faisons ce qu'il le dit et ça nous déchargera de grands fardeaux. Soli Deo Gloria nous rend aussi confiants et heureux. Parce que si nous vivons selon la raison pour laquelle nous avons été créés, nous serons heureux. C'est comme tout ce que, dans une illustration beaucoup plus petite, mais tout ce que nous créons, si nous l'utilisons ce pourquoi nous l'avons fait, ça marche très bien, c'est très utile, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Si on prend quelque chose qui n'est pas fait pour faire autre chose, hein, si vous prenez un marteau pour battre de la crème, ça va être très difficile. Ok ? On peut continuer la liste. Hein. Qu'est-ce que ce Soli Deo Gloria change et amène dans notre vie ? Quelles sont les conséquences ? Et comme j'ai dit, pourquoi pas après le culte de dire, ben, y a une chose, j'aimerais dire à quelqu'un, voilà, ça, ça change dans la vie. Et puis toi, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que ça change ? Etc. Mais je vous assure que tout change, parce que notre perspective, notre regard n'est plus tourné vers nous-mêmes ou qui que ce soit d'autre que Jésus-Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit, notre Dieu trinitaire. Nous allons prier. Oui, éternel notre Dieu, tu es celui qui règne dans les cieux. Quand tu as appris à tes disciples à prier, tu as dit « Notre Père qui es aux cieux », parce que tu es le divin, tu es celui qui a tout en main. Et nous voulons, Seigneur, que tout se passe comme toi tu le veux, afin que tu sois glorifié. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, de te faire confiance. Aide-nous à le faire. Nous avons même besoin de toi encore pour avoir confiance en toi. Mais nous savons, Seigneur, que rien n'existe sans toi. Oh, nous te remercions parce que tu nous as aimés le premier. Nous ne serions jamais venus vers toi, mais tu es venu vers nous. Où es-tu, as-tu dit à Adam, et tu nous l'as dit aussi, et tu le dis peut-être encore à quelqu'un aujourd'hui. Où es-tu? Pourquoi fuis-tu? Et je te prie, Seigneur, de transformer encore dans ta grâce, et de nous aider à vivre pour ta gloire, que ce soit dans nos vies personnelles, nos vies de couple, nos vies familiales, et aussi nos vies d'église, notre vie de travail, notre vie de voisinage, enfin, notre vie d'études. Dans tous les lieux et les endroits où tu nous mets, Seigneur, aide-nous à avoir cette réflexion de se dire, mais maintenant, ce que je fais là, est-ce que je le fais pour ta gloire? Aide-nous à vivre dans l'excellence, parce que cela manifeste ta gloire. Aide-nous à reconnaître que tous les dons que tu nous donnes viennent de toi, de nous en réjouir, de les utiliser, et de t'apporter notre reconnaissance. Et lorsque nous sommes encouragés dans les dons que nous avons, eh bien, encourageons-nous ensemble à te remercier. Oh, sois loué et béni, et que, Seigneur, ce sujet de Soli Deo Gloria soit pour nous un sujet quotidien de joie. Parce que tu ne veux pas nous mettre une charge sur les épaules par ce sujet, mais plutôt nous donner un regard tourné vers toi qui le détourne de nous-mêmes, afin que nous puissions grandir dans ce chemin que tu désires pour chacun d'entre nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.